bien dans le milieu groupé.
Ah, ça a changé, ça a changé.
Donc, la Sarmiento m'a demandé un titre, ça doit faire presque un an. Non? Presque un an. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire et je lui ai dit l'énigme de la fonction phallique, parce que je savais qu'en ayant terminé l'écriture de ce livre, Le Patou de Lacan, j'avais laissé assez volontiers de côté la question de la nature de ce qui est appelé par Lacan de multiples reprises la fonction phallique. Donc depuis lors, j'ai un petit peu travaillé, je suis passé de l'énigme de la fonction phallique à l'universalité de la fonction phallique, et c'est de cela que je vais vous entretenir ce soir. Alors d'abord, quelques précisions textuelles, parce que cette fonction phallique est une expression forgée par Jacques Lacan, donc autant suivre d'un peu près l'histoire de cette expression dans son texte, puisqu'elle apparaît dans son enseignement dès les premiers séminaires, mais avec de tout autre sens que celui qu'elle a pris avec les formules de la sexuation dans les années 70. Par exemple, de 1953 à 1969, pendant 13 ans, on la voit se manifester à peine une vingtaine de fois. On peut avoir des indications chiffrées, c'est facile maintenant, la statistique. Ici, une première fois, c'est dans une espèce de quasi-confusion avec ce qui s'appelle chez Freud la phase phallique. Là, mais on est déjà dans le séminaire sur l'identification, cette fonction phallique se situe dans un lien plus ou moins tendu avec le désir différencié de la demande, comme c'est la mode à l'époque. Mais ce n'est qu'avec le séminaire L'Angoisse qu'elle prend un sens plus original, dans une sorte d'homologie, le mot est de Lacan, d'homologie avec l'activité orale. Et je vais vous faire là une longue citation. Vous trouverez la version courte dans la version Miller au Seuil, mais je vais vous donner la version longue, parce que c'est une seule phrase assez que je vais lire lentement, mais j'espère avec l'intonation, pour que vous sentiez bien le mouvement dans lequel Lacan est pris quand il cherche à caractériser, pour une fois, la fonction phallique. Alors voici, citation. L'existence de cet organe énigmatique qu'est la langue nous permet également de faire intervenir à ce niveau ce quelque chose qui, dans les sous-jacences de notre analyse, est là pour nourrir l'homologie avec la fonction phallique et sa dissymétrie singulière, celle sur laquelle nous allons revenir à l'instant, c'est à savoir que la langue joue à la fois dans la succion ce rôle essentiel de fonctionner par ce qu'on peut appeler aspiration, soutien d'un vide, dont c'est essentiellement la puissance d'appel qui permet à la fonction de succion d'être effective, et d'autre part, d'être ce quelque chose qui peut nous donner l'image de la sortie de ce plus intime, de ce secret de la succion, de nous donner sous une première forme ce quelque chose qui restera, je vous l'ai marqué, à l'état de fantasme, au fond. Tout ce que nous pouvons articuler autour de la fonction phallique, à savoir le retournement du gant, la possibilité d'une éversion de ce qui est au plus profond du secret de l'intérieur. Fin de citation. Je ne sais pas si vous avez bien en tête ce que c'est qu'une éversion. On parle de l'éversion d'une paupière, par exemple. C'est quand quelque chose qui est intérieur passe à l'extérieur.
Et le reversement des gants, c'est pas...
Ça peut être une éversion, mais l'éversion est un terme plutôt médical. On parle, par exemple, de l'éversion de la muqueuse anale. C'est pas rigolo. Mais c'est une éversion aussi. Ce qui est à l'intérieur se met soudain à passer à l'extérieur. Donc voilà, cette fonction dotée d'une particularité topologique très simple, n'est-ce pas ? Du fait d'une, je cite, d'une dissymétrie singulière, elle est appelée à porter vers sa manifestation la plus visible, je recite, ce qui est au plus profond du secret de l'intérieur. Donc voilà des propriétés d'apparence fort contradictoires, mais qui sont bien celles de la langue, n'est-ce pas ? Pour autant que ce mot, dans son ambiguïté tout à fait foncière, désigne à la fois ce muscle qui meuble notre cavité buccale qui régit nos jouissances gustatives, qui règle nos modulations phonétiques et qui s'avère souvent bien utile dans l'amour, d'une part, tout comme il désigne l'autre langue, celle que l'on parle, celle qui nous lance dans l'aventure subjective et qui forge aussi le rapport à l'autre. Donc la fonction phallique, dans son acception logique réglée, continue cependant beaucoup de se faire attendre. La citation que je vous ai donnée de 1963, eh bien, de 1964 à 1968, l'expression se raréfie considérablement. On trouve 3 pauvres mentions de la fonction phallique en 4 ans. Mais elle fait un retour en force lors de la fabrication des formules de la sexuation, c'est-à-dire à partir de 70, au sein desquelles elle trône à partir de là, en ayant au passage hérité de la lettre grand phi, lettre sur laquelle il faut s'attarder un petit peu, lettre qui désigne chez Lacan le phallus symbolique. Parce que cette lettre grand phi, je vais aller un peu vite là, qui s'oppose, pour les lacaniens avertis, au petit phi du phallus imaginaire, vient pour désigner, pour Lacan, chez l'être parlant, quelle que soit cela, la présence ou l'absence d'attributs péniens, elle vient pour désigner cette commune référence à ce qui, chez Freud, s'annonçait comme unique libido pour les deux sexes. Mais il se trouve qu'en promouvant ce phallus symbolique, Lacan, dans le séminaire L'Angoisse, le met en rapport avec ce qui, dans la religion chrétienne, s'appelle la présence réelle. Alors là, il y aurait beaucoup à disserter. J'avais même une citation que je vais sauter à pieds joints. Je vous signale tout de même, si vous êtes friand de bonne lecture, l'excellent ouvrage paru il y a 1 ou 2 ans de Irène Rosier-Catache, qui s'appelle « La parole efficace, signe rituel et sacré », c'est au seuil. Une description de ce que c'est que le performatif au Moyen-Âge. Allez y voir de près, ça vaut la peine. Et on en apprend beaucoup, entre autres, sur la présence réelle. Mais, disons qu'avec ce sacrement qui convoque le mystère de la transsubstantiation, le signe ne se contente plus de signifier, mais soutient ce mystère de l'incarnation et fait qu'il y a du corps. Donc, avec la présence réelle, nous voilà une nouvelle fois de plein pied avec cette espèce de chiasme, cette éversion par laquelle le signe devient corps et le corps devient signe. Ça se passe entre magie et religion. Puisque j'en suis aux bonnes lectures, vous pouvez aussi aller lire le dernier petit bouquin de Giorgio Agamben, Signatura Rerum. C'est pas épais, mais le rapport qualité-prix est tout à fait remarquable. Donc c'est dans ces eaux-là que Lacan tricote son affaire de phallus symbolique et de fonction phallique. Tous ces termes-là visent un point singulier et catastrophique de l'économie symbolique qui noue sexe et langue et fait s'entrecroiser symbolique et réel d'une façon qui outrepasse la consistance de chacun des ordres qui se trouve ainsi lié dans un nexus très particulier. Bon, mais comme je vous l'ai dit, on est toujours loin d'une fonction au sens frégéen du terme, au sens que ça a chez Gottlob Frege. Et ce terme, chez Lacan, ce terme de fonction, indéniablement vient de Frege, qui fait une apparition discrète dans les séminaires des années 65-67, mais il ne bat son plein, si j'ose dire, qu'à partir de 71, et comme par hasard, c'est l'année où il se trouve traduit au seuil par Claude Imbert, et où sortent les 2 volumes des textes philosophiques et sur l'arithmétique, qui se trouvent traduits à ce moment-là. Bon, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller vite, mais c'est assez simple, hein. Qu'est-ce que c'est la fonction chez Frege ? C'est une entité symbolique qui essentiellement présente un trou, un vide, et qui ne prend de valeur de vérité que si on comble ce trou, ce vide, grâce à un objet qui se spécifie, lui, d'une seule chose, il n'a aucun vide, il est plein. Donc je m'en tiens à ces choses tout à fait élémentaires. Mais vous voyez qu'il y a, dans la fonction fréguéenne vue sous cet angle, un côté succion, un côté bouche béante, langue aspirante qui attend son objet. Quoi qu'il en soit, ces perspectives ouvertes par le concept de fonction permettent à Lacan de passer du substantif phallus à la fonction phallique. J'en tiens pour preuve, là aussi, enfin pas pour preuve, j'exagère, j'en tiens pour indice, le fait que le terme phallus connaît, toujours du point de vue statistique qui m'amuse, un véritable effondrement dans le cours des séminaires. Alors que les 10 premières années le voient apparaître près de 1500 fois, ça fait vraiment beaucoup, dans les 10 années qui suivent, on le voit apparaître à peine 200 fois, et dans les dernières années, où il est vrai, il y a moins de séances, et Lacan est beaucoup moins disert, il est beaucoup plus avare de paroles, on n'en voit plus que 9 petites timides apparitions. Bon, en tant que substantif, il faut bien remarquer qu'il présentait un gros inconvénient. C'est qu'un substantif s'en renvoie à un objet, et à propos d'un objet, on peut toujours demander qu'est-ce que c'est, où c'est, de quoi c'est fait, est-ce que ça se casse. Bon. Le mot frégéen de fonction, lui, permet désormais de dissoudre cet encombrant substantif dans un adjectif phallique qui n'appelle plus aux mêmes questions embarrassantes sur la localisation et les propriétés d'un objet. Donc avec cette quasi-disparition du substantif phallus, la voie est maintenant ouverte pour la fonction phallique, entendue désormais, comme je vous le dis, au sens frégéen du terme, c'est-à-dire pourvue d'un argument, qui en l'occurrence s'appelle banalement X, et passible d'une quantification qui autorise à s'en servir pour définir des universelles ou des particulières affirmatives ou négatives, etc. Or, cette soudaine promotion logique de la fonction phallique n'apporte pas pour autant toute la lumière qu'on pourrait souhaiter quant au sens de cette fonction, sens dont je vous signale qu'on en chercherait en vain une définition inaugurale dans un quelconque séminaire de ces années-là. Lacan ne prend jamais le soin de définir, que je sache, cette fonction phallique. Et tout au contraire, plus Lacan emploie cette expression, et plus le lecteur, à mon avis, est dans le noir pour comprendre le sens, pour donner sens à une telle expression. De temps en temps, il y a un avis qui tombe. Par exemple, le 12 janvier 72, Lacan dit ceci. La fonction phallique est proprement ce qui obture le rapport sexuel. Ah bon ? Dans le cours de la même séance, il ajoute également ceci. Et ce n'est pas parce que j'ai dit que la jouissance sexuelle est le pivot de toute jouissance que j'ai pour autant suffisamment défini ce qu'il en est de la fonction phallique. Provisoirement, admettons que ce soit la même chose. Donc, fonction phallique égale jouissance ? Bon, je ne me précipiterai pas ici à lire une telle équivalence en donnant trop vite sens au terme de jouissance dont il devrait être question ce soir et demain, parce que une certaine habitude des relations entre analystes me fait sentir que ce terme est tenu pour évident par qui l'emploie et totalement obscur par qui l'écoute. Donc j'en désespère beaucoup et je l'emploierai fort peu. Aussi bien sur le nombre des jouissances que sur leur mode, que sur leur qualité. Je sais bien que ce terme est d'une certaine façon inéliminable, je n'ai pas l'ambition de l'éliminer, mais je ne sais pas très bien m'en servir. Donc je reste prudemment accroché à ma fonction phallique. Donc je m'attarderai bien plus à une difficulté de lecture de ces formules de la sexuation qui tient à la valeur que Lacan a donnée lui-même, le premier, au côté gauche, comme on dit, on l'appelle le côté homme, parce qu'il en a fait un commentaire logicisé de ce qu'il appelle, lui, le mythe du meurtre du père dans Totem et Tabou. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est lui qui dit que c'est un mythe, parce que pour Freud c'était tout sauf un mythe, et que donc lorsqu'on se met à parler du mythe de Totem et Tabou, on a déjà les deux pieds chez Lacan. On les a plus chez Freud. Donc je n'ai pas envie de choisir, mais il faut savoir où on se trouve.
Pour Freud, s'il a pu terminer ce texte en écrivant « au début était l'acte », s'il a pu refuser, au moment où Jung, dans la correspondance, lui dit « écoutez, vous avez déjà fait une erreur célèbre en pensant que les hystériques avaient été séduites par leur père et vous avez enfin compris que c'était le fantasme qui était important », ne refaites pas la même erreur et considérez que l'ensemble de l'humanité trimballe depuis le début un fantasme de meurtre du père. Et Freud lui répond, c'est en 1912 par là, ce que vous dites là ressemble exactement à ce qu'on disait avant la psychanalyse. Donc le point de rupture est là. Donc Freud maintient que le meurtre du père est un acte historique. C'est complètement faux, mais la consistance de son texte est là. Or là, lorsqu'il veut commenter les formules gauches de ses écritures de la sexuation, part donc, comme tout le monde, de l'universel, qui affirme, donc qui s'écrit pour tout x phi de x, mais qui affirme tout homme, tout par l'être, disons tout homme, en français on peut se permettre ce masculin qui n'en est pas un, tout homme vérifie ou dit oui à la fonction phallique. Platon commente cette écriture, à mon avis, une seule fois. Tout homme est serf de la fonction phallique. Serf, il est servant, serviteur. Alors cet énoncé se renforce du sens donné par Lacan lui-même à sa particulière affirmative qui dit donc « il existe X tel que non phi de X », qu'on commente par lui-même, il en existe au moins un qui dit non à la fonction phallique. Je vous rappelle que nous ne savons toujours pas ce que c'est que la fonction phallique. Hein. Mais on ne s'empêche pas d'affirmer, c'est le charme de la logique, il y en a des qui disent non à ça. Et alors l'exemple phare et unique qu'il emploie pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, c'est celui du père totémique supposé jouir de toutes les femmes. J'ai essayé de montrer dans le patou que c'est de sa part une construction, puisque dans le texte freudien, un « toutes les femmes », on le trouve deux fois, une fois sous la plume de Darwin, et une autre fois sous la plume de Freud, en effet, qui n'en fait pas des caisses. Il n'en fait pas des. C'est pas le centre de son argumentation. Par contre, c'est le centre de l'argumentation de Lacan, qui a besoin d'un « toutes les femmes » pour le nier. Donc ce père, ainsi éclairé, constituerait l'exception unique, encore une fois, qui confirmerait la règle, selon l'adage bien connu et logiquement stupide, car aucune exception n'a jamais confirmé aucune règle en logique. Et je vous rappelle au passage, je ne sais pas si j'avais signalé, que l'expression est dérivée du langage juridique, où l'on dit « l'exception confirme la règle pour les cas non exceptés ». Ça veut dire que le législateur qui a fait la règle, qui sait qu'il va y avoir des exceptions, les calcule, les énumère, et qu'il s'abstient de mettre un etc. parce qu'il sait très bien que tout le monde va venir pour dire « je suis l'etc. ». Donc à la fin il écrit « l'exception confirme la règle pour les cas non acceptés », ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Donc c'est logiquement beaucoup plus soutenable. Seule la sapience, la sagesse des nations dit « l'exception confirme la règle », mais pas la logique. Hein. L'exception infirme la règle. Toute exception infirme la règle comme il se doit. La moindre exception infirme la règle. Donc ces affirmations, et bien d'autres issues de ces séminaires des années 70-71, constituent à mon sens un embrouillamini dont il est difficile de se défaire, dans la mesure où elles semblent apporter un ordre logique rigoureux à la construction freudienne qui a l'air plutôt inspirée, disons. Et cette construction freudienne a l'air d'apporter en retour, très généreusement, un sens carrément prêt à porter pour des formules qu'on s'emploie à ne pas lire. Donc il n'y a qu'un hic dans cette affaire, mais à mon avis il est de taille, c'est que la particulière affirmative est une particulière, ce n'est pas une singulière. Je veux dire par là qu'elle affirme quelque chose, en l'occurrence dire non à la fonction phallique, mais elle l'annonce comme étant le fait, non pas d'un seul, mais de quelques-uns. Lacan l'oublie si peu que dans sa lecture qu'il appelle ça l'au moins un. Donc, au moins un, ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y en aura jamais zéro, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a au moins un, et donc très possiblement plusieurs. La seule question qui se pose à ce niveau, c'est de savoir si ce quelques-uns va aller jusqu'au tous, c'est tout à fait pensable, ou est-ce qu'il va s'arrêter avant en rencontrant un maximum. Voilà la seule question qu'on pourrait lui poser. Mais si vous confondez une singulière et une particulière, vous allez rencontrer logiquement des problèmes parce que les questions d'existence ne se posent pas de la même façon pour une particulière et pour une singulière. Voilà pourquoi ce commentaire de Lacan, ce commentaire de ses formules, via totem et tabou, ça a un certain charme pour comprendre des choses au regard des formules, mais c'est aussi une voie de perdition si on veut interpréter l'ensemble du quadrangle à partir de là. Bon, je saute un petit peu cette affaire, parce que puisque je ne veux pas me servir de totem et tabou, il faut bien que je prenne d'autres biais pour comprendre cette satanée fonction phallique. Donc je vais m'écarter de la vulgate freudienne sur le meurtre du père, qui passe à toutes les sauces, et m'aventurer vers ce que Freud a voulu faire, ça va être assez rapide, avec ce terme de castration et la façon dont Lacan l'a reçu. Alors, une brève citation de Freud d'abord, c'est dans La disparition du complexe d'Œdipe. « Nous affirmons, écrit-il, que l'organisation génitale phallique périt avec la menace de castration. » Or, c'est clairement faux, hein, parce qu'il avait déjà averti ses lecteurs dans le même texte que la menace à elle seule ne suffit en rien pour être effective. Hein. Pour la rendre efficace, ça c'est un problème phallique, pour rendre efficace la menace, pour que l'enfant y accorde sa créance, un ton de voix menaçant n'a jamais suffi. Donc on peut demander quel est ce mouvement subjectif où l'on accorde son assentiment à une menace, où on se met à y croire. Freud insiste, d'ailleurs, la vue des organes génitaux féminins, voire maternels, n'y suffit pas non plus. Le petit garçon, tout de même inquiet, sentir en considérant que ça va grandir, ou qu'elle a été punie, ou que n'importe quel accident est bon, pour sauver l'universelle affirmative, disons, portant au moins sur le monde animal, est tel que le petit Hans, qui nous a tous devancés dans l'affaire, l'a dit merveilleusement, n'est-ce pas ? Je le cite. Un chien et un cheval ont un fait pipi, une table et une chaise n'en ont pas. Merveilleux partage, grandiose. Il a un peu oublié les légumes, parce que, vous savez, du point de vue aristotélicien, les légumes ont une âme végétative, mais ils ont une âme quand même. Mais à 2 ans et demi, c'est déjà pas mal de pouvoir classer les êtres d'une façon aussi élégante et sommaire, si j'ose dire. D'un côté, ceux qui ont un fait pipi et donc une âme, et les autres, les tables et les chaises, qui n'ont ni fait pipi ni âme. Alors, côté petite fille, comment Freud s'y prend-il pour la faire entrer dans la phase phallique? S'il y a des féministes ici même, je prends la précaution de dire que je cite Freud, je ne soutiens pas hardiment ses propos. Alors il dit ceci, l'enfant, c'est l'enfant-fille, l'enfant ne comprend pas que son manque actuel de pénis est un caractère sexuel, mais elle l'explique par l'hypothèse qu'elle a possédé autrefois un membre tout aussi grand et qu'elle l'a perdu par castration. Voilà une construction très sophistiquée, qu'il me paraît très délicat d'universaliser. Mais je ne m'arrêterai pas ici à des considérations sociologiques, dans la mesure où il s'agit d'établir, pour Freud, l'universalité de la phase phallique, considérée donc comme étant deux départs chez chacun, fille ou garçon, pour autant que tous sont soumis à la castration. Soit qu'elle a déjà eu lieu, c'est le côté fille, soit qu'elle est là à l'horizon, c'est le côté garçon. Mais autant dire qu'il y a une implication réciproque, et logiquement c'est une équivalence, entre phase phallique et castration, puisque la seconde s'impose, soit comme mode de sortie, soit comme mode d'entrée de la première. ce que Lacan reprend à son compte dans l'écriture d'une universelle pour tout x phi de x, il a bien raison, dans laquelle s'affirme et l'unicité de la phase phallique et son lien obligé à la castration selon des modes que seuls spécifient les particulières affirmatives et négatives. Mais au niveau de l'universel, c'est sa façon de recevoir, me semble-t-il, le dire freudien sur cet appareillage de la phase phallique et de la castration. Mais alors, pour ce qu'il en serait de la conviction touchant à la castration, il faut bien écarter l'idée d'un constat empirique. Ce n'est pas en voyant quelque chose que tout d'un coup s'effondrerait cette conviction concernant la phase phallique. Seul un événement de pensée peut en venir à établir l'universalité de la phase phallique, puisque celle-ci est basée, me semble-t-il, sur une forme d'induction qui permet de passer de l'observation, elle forcément empirique, l'observation, selon laquelle quelques-uns l'ont, ce saténéphalus, ce pénis, il faut passer de quelques-uns, n, vous savez que l'induction, c'est, on voit ça pour n0, si c'est vrai pour n0, n et n plus 1, c'est vrai pour tous. Donc on peut penser que le client a fait cette induction-là, n'est-ce pas? Si quelques-uns l'ont, alors tous l'ont. C'est ça, c'est l'affirmation, elle, extrêmement peu empirique de l'universel affirmatif. Cette induction, qui donc me paraît être au fondement de l'universel affirmatif, ne pourra être suspendue que si se trouve reçue sur le même mode logique l'existence d'exceptions qui lui font objection. Chez Lacan, ce sont ces particulières affirmatives et négatives qui viennent effectuer des objections différenciées à l'universel affirmatif, certains x se spécifiant du côté de « il existe x tel que non phi de x », qui fonctionne donc comme un « il y en a au moins un qui échappe à la fonction dont nous ne savons toujours pas ce que c'est », tandis que d'autres se trouvent portés vers un « pas tout x phi de x », c'est-à-dire une acceptation partielle de l'universel dans la mesure où il s'y dit, où on y dit que pas tout de ce, dit oui à cette fonction phallique. Alors, j'espère que vous sentez qu'en s'appliquant à cette lecture croisée du déclin du complexe d'Œdipe, selon Freud, et des formules de la sexuation, selon Lacan, on ne peut pas ne pas noter la parfaite ambiguïté du « dire oui » de l'universel affirmatif. À quoi s'agit-il de dire oui? En quoi la possession universelle du phallus équivaudrait-elle à sa perte, alors dénommée castration? Qui a jamais dit oui à une telle opposition de valeurs? Et donc à quelle fonction tout être parlant est-il dit satisfaire à travers cette fonction phallique? Alors, pour comprendre une telle situation, je pense qu'il vaut mieux se tourner, plutôt que de chercher dans Lacan, comment comprendre Lacan avec Lacan, sur Lacan pour Lacan, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un autre type d'énoncé universel qui touche lui aussi de plein fouet tout être humain, et c'est l'affirmation suivante. Tout ce qui vit meurt. Ce qui implique, vous le voyez au passage, ce qui implique la mort à venir de qui l'énonce, de qui le pense. Sur la base de quelle induction peut survenir pareille conviction? Car il faut bien le reconnaître, chacun, quitte à repousser cette idée avec la dernière énergie, convient de la vérité de cet universel. Pour tout x phi de x, tout ce qui vit meurt, la vérité de cet universel dont la fonction affirme que chacun de ces éléments, donc le vivant qui la profère, perdra la propriété qui produit son appartenance à l'ensemble servant de base à la fonction. Vous me suivez? Avec ce type de proposition qui annonce la ruine de la propriété qu'elle affirme,
On n'aura pas de mal à trouver une particulière affirmative du type de nos formules. Il existe X tel que non fille de X. Il suffit d'avoir assisté à une messe d'enterrement de style chrétien ou catholique pour savoir que Jésus est celui-là. Quand cela, il a ouvert le chemin pour chacun qui, comme lui, aura perdu sa vie terrestre. Et de plus, on ne s'en tient pas là, n'est-ce pas ? En attendant la résurrection des corps, que lui a connu dès le troisième jour, chacun gardera intacte son âme, prouvant ainsi, s'il le fallait, que pas tout du défunt n'a défunté. Donc j'ai le droit de dire, pas tout X fille de X, hein, avec ma fonction de tout ce qui vit meurt. Et par ailleurs, pour terminer la valse, il reste clair qu'il n'y en a pas l'ombre d'un pour échapper à ce sort, puisque Jésus lui-même, tout Dieu qu'il fut, y a succombé. Donc, il n'existe pas de X tel que non fille de X. Donc, la fonction qui répond à ces jeux d'écriture, que ce soit la fonction phallique façon Lacan, ou la fonction vitale que je vous ai proposée, la fonction qui répond à ces jeux d'écriture doit ainsi recéler en son sein une contradiction. À tout le moins, elle doit posséder une espèce de pli interne qui permet un tel déploiement, et c'est un pli qui était déjà annoncé dans la citation inaugurale que je vous ai donnée, selon laquelle la fonction phallique participe, je recite, de la possibilité d'une éversion de ce qui est au plus profond du secret de l'intérieur. Il y a là, si vous y réfléchissez, je crois, comme une réminiscence de l'au-delà du principe de plaisir. Sous les pavés indéfinis de la pulsion de vie, la plage sans fin de la pulsion de mort. Pas l'un sans l'autre, et pas l'autre sans l'un. Donc cette pliure interne à la fonction rend compte, à mon sens, du lien entre phallus et castration, comme elle le fait dans cet exemple entre vie et mort, ni plus ni moins. De sorte que la fonction phallique telle que Lacan l'avance avec les formules de la sexuation contracte dans une seule lettre ce grand phi, dont je vous ai rappelé qu'il faisait allusion à la présence réelle, elle contracte dans une seule lettre le principe même de l'articulation signifiante et symbolique. Principe qu'il n'est pas trop difficile d'énoncer comme suit, que deux éléments puissent faire un en restant chacun distinct de l'autre. Voilà le minimum requis pour passer de la lettre au sens, c'est-à-dire pour passer de deux éléments discrets et fixes à leur liaison qui désigne une direction. Avec deux points, on peut toujours tracer une droite. Avec trois points, c'est déjà plus compliqué. Mais deux points, c'est facile. C'est par là que Lacan, commentant une nouvelle et presque une dernière fois cette fonction phallique, à la toute fin du séminaire qui s'intitule « D'un discours qui ne serait pas du sang blanc », rejoint explicitement Frege. Il parle là, durant toute cette séance, de Frege et, en usant d'un vice qui connaît toujours un indéniable succès chez les lacaniens, Lacan soutient que son texte, qu'il avait prononcé bien longtemps avant, le 9 mai 1958, qu'il avait prononcé en allemand, le seul texte à ma connaissance qu'il ait prononcé. Ah non, il y avait la chose freudienne. Non, c'était à Munich, mais c'était en français, ça. Donc, le 9 mai 1958, à l'Institut Max Planck de Munich, il prononce une conférence qui s'intitule « Die Bedeutung des Phallus » et il signale que c'est un pléonasme au sens où phallus, je garde les termes allemands exprès, hein, où phallus y équivaudrait à Bedeutung, et réciproquement. Donc je vous propose d'étudier d'un peu plus près cette équivalence qu'il nous propose parce qu'elle est un peu trompeuse et précieuse en même temps. Parce que c'est le même Lacan qui a accepté que cet article, soit traduit en français, tel que vous le trouvez dans les écrits, sous le titre « La signification du phallus ». D'accord ? Je pense que vous l'avez lu, pour la plupart d'entre vous au moins. Excellent texte, petit texte, mais intitulé « La signification du phallus ». Bon. Et à première vue, il n'y a pas de raison de s'émouvoir, parce que « Bedeutung », terme allemand, peut très bien être traduit par « signification ». D'autres fois, on le traduira aussi bien par « sens ». D'autres fois encore par importance, et même quand il s'agit de la Bedeutung d'un mot, on parlera de l'acception d'un mot. Donc, si ce n'est qu'une question de traduction, le traducteur de Lacan, et Lacan lui-même, a tous les droits de traduire die Bedeutung des Phallus par la signification du phallus. Mais si on veut être un peu fréguéen, c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que dans son grand article de 1892, intitulé « Über Sinn und Bedeutung », grand article de Frege, cet article a été traduit donc par Claude Imbert en 1971 sous le titre « Sens et dénotation ». Vous trouvez ça donc dans les écrits logiques et philosophiques parus au Seuil en 1971. Alors, de sorte qu'il ne faut tenir que « Sinn » égale sens et Bedeutung égale dénotation. On n'est plus dans la signification, on est dans la dénotation. Alors là, il y a un petit jeu lexical. Il se trouve qu'en français, on peut parler de dénotation, certains logiciens parlent de ça, mais c'est surtout les Anglais qui, à cause d'un article de Russell de 1905 qui a fait la loi dans ce secteur qui s'intitule On Denotation, les Anglais parlent de dénotation. Mais les Français, aussi parce que le mot dénotation est un terme de linguistique qui se pose à connotation, les Français ont glissé doucement du côté du mot référence. Il faut aussi insister sur le fait que quelqu'un comme Carnap, en 1947, quand il a sorti Meaning and Necessity, il a fait un grand partage entre intention et extension en logique, et il a rangé la Bedeutung frégéenne du côté de l'extension. C'est ce qui fait que depuis lors, en français, on dit « référence » pour traduire « Bedeutung ». Donc l'article de Lacan devrait s'intituler au jour d'aujourd'hui, si on fait une traduction frégéenne, « La référence du phallus », mais vous voyez que ça ne marcherait pas fort. Mais c'est pourtant dans ce sens-là qu'il faut aller. Parce que l'équivalence que Lacan propose, c'est pas de dire que le phallus a de la signification, ou qu'il est la signification. Le phallus, il l'entend comme référence, au sens où que je vais essayer de dégager un petit peu pour conclure. Parce que qu'est-ce que c'est que la référence? C'est pas très compliqué à envisager, même si c'est compliqué à utiliser comme tel. Je reprends les exemples canoniques, parce qu'il n'y a rien de tel pour s'entendre. Si la signification, le zin, étoile du matin, et la signification, le zin, étoile du soir, sont distinctes, ces significations différentes se révèlent après enquête scientifique. Posséder une Bedeutung, une référence commune qui s'appelle aussi Vénus. Mais attention, ce nom de Vénus n'est pas à lui seul une référence. Ce n'est encore qu'une autre signification, un autre signe. Seul l'accord sur cet alignement de plusieurs significations sur un même élément conçu comme n'étant pas, lui, d'ordre littéral. Seul cet alignement va désigner ce qu'on appellera une référence. D'accord ? Cette référence permet alors de faire s'équivaloir les diverses significations qu'il accepte comme référent commun, tout en continuant de se distinguer les unes des autres. Étoile du matin n'a pas du tout la même signification qu'étoile du soir, qui n'a, de ce point de vue-là, rien à voir avec Vénus. Dans leurs emplois, ces significations sont tout à fait différentes. Par contre, si on est un peu soucieux d'astronomie, eh bien, on est d'accord que ces trois significations possèdent la même référence. Pendant longtemps, ils ne l'ont pas eue. Donc, si donc le phallus, ainsi promu par la fonction phallique, n'est rien d'autre qu'une référence universelle pour tout être parlant, cela implique que
quels que soient les éléments produits au long d'une quelconque chaîne symbolique. Et pour peu qu'elle soit proférée, ce phallus constituera la référence commune de toutes les occurrences ainsi produites et tenues pour concaténées. C'est lui l'agent de la concaténation. Alors je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais pour moi, un tel niveau d'universalité m'effraie. En ce qu'il dépasse de beaucoup l'ordre des raisons qui veut, depuis Leibniz et son grand principe, que rien n'est sans raison. Autrement dit, que tout ce qui est se trouve d'une façon ou d'une autre concaténé à d'autres êtres selon des liens qu'il est permis d'articuler ou tout le moins qu'il est permis d'espérer articuler un jour ou l'autre. Mais avec la promotion lacanienne du phallus comme référence générale, au sens où Marx et les économistes classiques pouvaient parler de l'or comme équivalent général, au sens où du phallus comme référence générale, il faut concevoir que toute jaculation mise en rapport avec n'importe quelle autre jaculation pointera au passage vers ce référent. C'est franchement presque exorbitant. Autant dire qu'aucun déploiement symbolique n'est concevable sans ce phallus qui réfère pour toute mise en acte d'un quelconque fragment de chaîne signifiante, mais autant dire aussi que cette promotion au firmament de la référence générale nous dit tout sur sa fonction et rien sur ce qu'il est, ce phallus, s'il est quoi que ce soit. Je vous ferai remarquer au passage aussi, avant de conclure, qu'une telle universalité ne manque pas complètement de pertinence pour le psychanalyste dans la mesure où elle rend raison de cette chose bien plus terre-à-terre, inventée par Freud de toutes pièces, et qu'on appelle la règle fondamentale. À savoir que le fait que n'importe quoi puisse être mis en relation avec n'importe quoi et produire du même pas, non pas une signification, là on peut le préciser, parce que ça c'est la grande avenue de la paranoïa, ça produit non pas une signification, mais une référence. Si on accepte cette voie, on se dit que la mise en relation de n'importe quoi avec n'importe quoi vise cette référence commune et donc le sujet qui est appendu à cette référence. Sujet extraordinairement quelconque, qui mérite bien de s'appeler X, comme dans les formules de la situation. Car la définition du sujet en tant que représenté par un signifiant pour un autre se situe elle aussi à des sommets d'universalité. Et une définition aussi universelle du sujet ne pouvait être atteinte, à mon sens, que par celui qui s'était donné un référent tout aussi universel. Alors, il reste que cet universel n'intéresse Lacan que pour autant qu'il trébuche. Lacan ne s'est jamais fait le chantre de l'universel, loin de là, mais il était assez averti du fait que pour que faire trébucher l'universel, encore faut-il le construire correctement. Donc il ne s'intéresse à l'universel que pour autant qu'il trébuche sur l'existence, et l'existence, dans son affaire que je ne développerai pas maintenant, est entièrement dévolue dans le carré logique aux particulières affirmatives et négatives. Chaque existant, saisi par cet universel qu'il inscrit dans l'être pour autant qu'il parle, chaque existant trébuche différemment en suivant les apories d'un indépassable binarisme sexuel. Ça, c'est une autre histoire et qui suppose d'autres développements. Pour ma part, je n'ai cherché dans cet exposé qu'à situer la fonction phallique, c'est-à-dire celle à partir de laquelle peuvent se déployer les formules de la sexuation, et en montrant que cette fonction recèle nécessairement non pas tant une contradiction, encore une fois, qu'une sorte de pli interne qui articule deux versants qu'elle distingue en les liant sans rien perdre de son unité. En ce sens, elle est une espèce de matrice symbolique qui offre à un corps doté de, c'est le minimum, de la capacité de Babil,
capacité de babiller, cette nouvelle perspective devrait désormais, en tant que sujet. Dans cette nouvelle aventure, l'attribut peignien qui semblait donner son nom à la fonction n'est plus rien qu'un accident, accident de taille certainement, mais un accident, et il lui faudra composer avec les modes d'objecter, de se faire objet de l'universel qui font de chaque par-lettre comme sujet particulier, c'est-à-dire comme sexué. Voilà, merci.
Alors, la référence fanique est universelle ou pas?
Elle l'est.
Merci. Oui. Je trouve qu'effectivement, d'axer ce travail sur le phallus et la fonction phallique est tout à fait intéressant, parce que le terme phallus fait partie de ces, j'ai envie de dire, ces faux amis qui jalonnent tout le discours analytique depuis Freud et Lacan. Et bon, si on s'en tient au langage courant, bien entendu, il y a une synonymie évidente entre pénis et phallus, n'est-ce pas? Et comme ça, c'est effectivement Freud puis Lacan qui ont bien posé et montré en quoi ces deux termes n'étaient pas du tout synonymes, mais plutôt étaient même antonymes. En ceci que le phallus indique l'absence de pénis, ou la possibilité qu'il y ait absence de pénis, puisque la fonction phallique a à voir avec la fonction de la castration. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a la sensation que c'est une découverte du 19e siècle ou du 20e siècle. En ceci que c'est la plus grande avancée de la pensée freudienne et lacanienne. Alors que c'est peut-être plutôt un recouvrement d'une pensée ancienne. Hein, puisque, bon, on le redit, que si on prend la notion de phallus chez les Égyptiens, qui est figurée effectivement par les 12 ou 13 obélisques qui ont été construits dans l'Égypte ancienne, il figurait quoi? Il figurait le fait qu'Isis avait perdu son pénis, hein, c'était, qui avait été mangé par un poisson, hein. Et c'était la recherche de ce pénis manquant qui avait été figurée sous forme de ces 12 ou 13 obélisques qui ont jalonné l'Égypte. Et donc, fonction phallique, c'est justement, qu'est-ce que c'est? Donc, comment ça se situe effectivement par rapport à la fonction de la castration, qui est exactement, là encore, le contraire de la dimension naïve, qui est de dire fonction phallique, c'est le fonctionnement de la bite, quoi. C'est ce qui peut paraître d'une façon tout à fait naïve et communément entendue.
Il m'importe une précision, c'est que j'ai voulu accentuer l'affaire fonction phallique pour ne pas me lancer justement dans ces affaires de jouissance phallique, ou jouissance de l'autre, jouissance féminine, parce que les adjectifs-là sont qualifiés avec une telle rapidité. Que le substantif, lui, il ne peut plus rien faire. Le mot jouissance est écrasé par ces adjectifs. Alors que le mot fonction, lui, on peut lui filer n'importe quel adjectif, il tient le coup, quoi. Donc fonction phallique, ça tient bien mieux la distance que jouissance phallique. Je ne nie pas qu'il y en ait une, mais je doute fort que ce concept soit bien formé, si je puis dire, même si Lacan l'emploie et d'autres aussi. Je ne suis pas du tout à l'aise avec cette expression de jouissance phallique. Je ne sais pas très bien quoi en faire. Un concept a besoin de camarades pour jouer avec lui. Et cette jouissance phallique n'en a qu'un ou deux camarades et n'arrive à rien, quoi. Donc il me paraissait important d'éclairer, de montrer au contraire en quoi la fonction phallique est obscure.
Et c'est un trou.
Oui.
C'est un vide, la fonction phallique.
Je ne sais
Enfin, je préfère le pointer du côté de la référence, comme Lacan lui-même l'a pointé avec son pléonasme, là, parce que la référence, c'est pas un trou. Hein. C'est simplement...
Non, mais dans la structure d'une fonction, il y a une dimension, de vide.
Enfin, indéniable.
Disons une dimension de vide.
Absolument. D'accord.
Moi, j'aimerais revenir parce que, en fait, je ne comprends pas votre inquiétude sur quelque chose qui serait trop universel. Quand vous avez parlé de la mort, quand vous avez repris les formules de sexuation sur la mort, l'universel de la mort n'a rien de... Enfin, si, c'est très très inquiétant, mais c'est une inquiétude qui dure depuis un des temps. On sait qu'on va mourir. Enfin bon, c'est une bêtise, quoi. Attendez, ça c'est juste pour dire que quand vous avez pris ça, vous avez bien nommé un lieu d'universel qui, au fond, a son point d'accrochage, que parce que quand il se met à concerner quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui est entre le... Enfin, il me semble que ça revient à quelque chose qui est entre l'amour, le mot et la chose, le mot qui désigne la mort et la référence de cette mort dont on ne sait à la fois rien et dont on sait à la fois qu'elle est tout. Avec la mort, je trouve ça assez joli, on voit très bien quel est ce paradoxe de la fonction en tant qu'universel et pour autant non repérable sur une chose. Et c'est juste pour dire que ça me semble être en fait tenir à la nature de la parole. C'est la manière même dont la parole parvient ou ne parvient pas à désigner des choses ou à avoir des références, qui fait qu'on a besoin, quand on en parle en termes d'objet, de parler de fonction phallique. C'est pas la... Enfin voilà, je voulais juste vous relancer sur la question de la mort et sur la question du fait que ça n'a de signification que quand quelqu'un a un X, on dit très bien que quand quelqu'un a un X, se voit mort, ou se pense mort, ou rencontre quelqu'un qui est mort, enfin, etc. quoi.
C'est un point qui m'intéresse cliniquement, si je veux dire. J'aime bien, c'est dommage, on ne peut pas poser la question, bien souvent on ne peut pas, mais j'aimerais bien la poser. C'est comment ça vous est venu à vous, l'idée de la mort? C'est-à-dire, à quel moment?
Non.
Je veux dire, à mon avis, ça arrive entre 6 et 10 ans, quoi. C'est le moment où on se rend compte que, un se rend compte qu'il y passera.
Oui, mais c'est ce point de rencontre que vous parlez, qu'avec la mort, je crois, tout le monde entend dans son côté paradoxal de non-référence. Il n'y a pas de référence.
Mais c'est pas... Oui, bien sûr.
Mais je veux dire, autant on l'entend très bien avec la mort, pour moi, je comprends très bien ce que vous avez voulu faire, la question du phallus, elle est exactement au même endroit.
Oui.
Exactement, c'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde comprend très bien qu'il y a, parmi les gens qui parlent, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est comme ça.
Oui.
Et que quand parmi les gens qui parlent, on va tous mourir. Voilà. Les gens qui parlent, on a tous un sexe. C'est quelque chose qui est. Dont on entend le côté paradoxal en soi. Quoi. Après, il faut le construire. Mais c'était juste parce que je voulais. Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez cette inquiétude sur l'universel de la fonction phallique? Alors que pour la question de la mort, on voit bien qu'il n'y a aucune inquiétude. Enfin, si ce n'est que c'est l'inquiétude suprême, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire.
Je ne comprends pas
ma question.
Non, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on est tellement d'accord là-dessus, puisque narcissiquement, personne ne va mourir. Aucun ne va mourir. Le narcissisme ne peut pas concevoir ça. Il n'y a pas de mort. Hein. Et par ailleurs, il y a cette conviction qui arrive, mais comme une maladie, quoi. Je ne sais pas comment elle arrive, d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'intéresse. Quand je dis cliniquement, c'est au un par un, quoi. Comment ça vous est arrivé, ça? Comment la mouche vous a piqué, hein? Comment vous avez pu vous convaincre de ça? Alors que, quand même, c'est pas évident.
Hein? Je pense qu'il y a une différence entre ce qui s'écrit et ce qui se dit. Donc... Déjà, dans les formules d'asexuation, vous les prenez comme des théorèmes logiques. Alors que Lacan, dans un discours qui n'est pas du semblant, il dit qu'il y a une partie de la formule qui est du dire et une partie qui est de l'écrit. Et donc ça n'a pas le même statut, on ne peut pas... Je voulais vous poser la question parce que, justement, vous faites l'allusion avec la mort, donc vous dites qu'il y a le corps et l'âme. Et donc, Patou de X est mort puisque l'âme reste. Et votre Patou, il porte sur l'individu X indivisible où il porte sur X divisable dans ses jouissances. Et donc, dans l'espace homme et l'espace femme, c'est des sujets d'identification. Et donc l'homme, il s'identifie à tout X fille de X, à la jouissance phallique, et la femme a plutôt tendance à revenir vers une possibilité de la jouissance féminine qui peut être expérimentée par l'homme qui s'identifie à la pulsion homme. Et je voulais revenir à ça dans votre continuité.
Mais pardon, est-ce que vous voyez que dans votre raisonnement à l'instant, oui, vous faites fonctionner le binarisme comme cause, au lieu de le produire comme résultat? Avec, mais si, parce que vous dites les femmes se rangent plutôt de ce côté-là, elles ont plutôt de ce côté-là.
Non, non, c'est pas important ça.
Ah bon?
Non.
Oui. Ok.
Ce que je voulais dire, c'est que donc, je finis sur vous et la continuité, oui, c'est-à-dire que je pense que quand on peut. J'ai pris ça chez Bronstein, hein, c'est pas en lisant la jouissance pour préparer votre séminaire. Il définit un peu la crachose, c'est-à-dire cette jouissance meubienne qui est tout dans tout. Et elle explose. Bon, on le sait, alors je m'excuse, c'est des maths, hein. Un Möbius se divise quand il se split par le milieu en un autre Möbius et un Jordan. Et le Jordan est Piphas, et donc on a un qui devient trois, c'est-à-dire que cette jouissance crachose initiale non différenciée, à travers le vide de la jouissance phallique, où le phallus est l'unique référent, qui est une absence, quelqu'un qui est référent au pôle. Quand il arrive au pôle, la boussole, elle ne lui dit plus rien. Elle tourne en rond, elle est complètement paumée. Alors que quand il est loin du pôle, il a toujours cette référence universelle. Et donc, ce phallus qui tire le discours, la chaîne signifiante, il est bien le référent unique, l'unique des Deutung. Et c'est ça qui fait le moteur, c'est-à-dire cet objet inaccessible. Bon. Donc, j'en reviens à mes histoires. C'est donc un se divise en trois. On a cette crachose qui se fait un vide au milieu d'elle, donc le modus de la jouissance phallique, et des deux côtés, avec une biface, la jouissance féminine, et alors selon les termes, le sang, l'être, enfin ce qu'on veut.
Quand je dis continu, je ne veux pas dire meubien. Le meubien, c'est une manière de traiter du continu après, une fois que les distinctions sont en place. Mais dans ma tête, en tout cas, quand je vais essayer de repérer la crachose, c'est bien de la repérer dans une indifférenciation où il n'y a pas un seul mot, donc il ne risque pas d'y avoir non plus un seul mot qui se connecte à un autre, et encore moins une continuité d'un à l'autre. C'est-à-dire c'est...
Il n'y a pas de mot. La jouissance phallique, c'est ce qui permet de parler.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était pour la crachose, c'était d'en rendre compte dans le rapport que c'est surtout les éducateurs qui le voient parce qu'ils sont plus longtemps avec les enfants sans parole. C'est cet objet qui existe quand même dans cette espèce d'indifférenciation orale, anale, voix, dégoût, ben, tout y passe. Il existe quand même et l'autre qui s'en charge, c'est une indifférenciation qui provoque de la folie pour lui. Ben voilà, c'est ça que je voulais essayer de renvoyer sur le côté d'un continu. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que je lirai avec un E au milieu la question de la crachose avec la jouissance phallique après quelques nuits de réflexion.
Oui. J'aimerais revenir à une chose très simple par rapport au phallus et votre inquiétude à l'universel de la référence phallique, mais c'est aussi une signification parce que le phallus n'est pas seulement imaginaire, est symbolique, et c'est par ces phallus symboliques que tout se passe entre l'homme et la femme. Ça veut dire que c'est une référence absolue et universelle, et pour moi. Et je ne m'inquiète pas par rapport au phallus, attaque symbolique.
Mon inquiétude est limitée. Hein. C'est simplement l'universel, ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Donc l'affirmation de l'universalité, si vous voulez, Freud par exemple, je ne vois rien d'aussi universel dans Freud. Ce qu'on rate, c'est pour ça que j'ai insisté sur la formule le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Si on cherche le sens clinique d'une telle expression, et pire encore si on le trouve, ça va être une catastrophe parce que c'est un énoncé,
Justement, c'est comme rien n'est sans raison, c'est un axiome, c'est un énoncé de très haut niveau.
Excusez-moi, mais cliniquement, c'est pas l'évanescence des sujets, c'est ça?
C'est un énoncé qui, pour moi, n'a aucune valeur clinique.
Mais on est sujet que dans l'évanescence. Je veux dire par là que c'est les signifiants, justement, qui viennent, je ne sais pas, c'est peut-être trop dogmatique, mais c'est, pour moi, c'est clinique. On est jouissant et on est sujet quand c'est vanissant. Sinon, on n'est pas sujet, c'est l'objet des connaissances, la personne qui connaît, qui rationalise, etc. Mais le sujet de la conscience, il est évanescent.
D'accord, et alors? Ça me donne pas sa dimension clinique, ça. Parce que de la même façon qu'affirmer l'universalité du phallus est un énoncé hautement théorique, ça ne dit rien sur. Et si on ne le prend pas à ce niveau-là, on va rater le coche. Donc le sujet, en tant qu'il est représenté par un signifiant par un autre, ne spécifie aucun sujet. C'est le régime de fonctionnement de ce truc qu'on appelle sujet. Maintenant, sa réalisation effective, c'est une autre paire de manches, parce que personne n'a jamais mis la main sur un signifiant, quand même. Ça court trop vite. Hein. C'est très pratique, mais il y a une inflation du mot signifiant, au point qu'il est en train de remplacer le mot « mot » en français. Hein. Mais on doit y résister, justement, en essayant d'employer assez correctement les termes techniques qu'on emploie. Le signifiant est rare, disons, et le sujet encore plus. Et l'énoncé en question, qui nous permet de discuter et de régler un certain nombre de choses, est un énoncé à prendre un niveau très théorique. Donc un niveau d'universalité qui cesse de m'effrayer, c'était plutôt un tour rhétorique que je prenais, pour dire, attention, je vous ai surtout parlé de l'universalité, mais la seule chose qui m'intéresse au fond, une fois qu'on a posé ça clairement, c'est de voir ce que ça donne quand on y objecte. Parce qu'on y objecte différemment. Et dans le patou de Lacan, j'ai essayé de montrer, alors du strict point de vue logique d'abord, qu'il y a deux types de carrés logiques fort différents. Il y en a un où la particulière affirmative est impliquée directement par l'universel affirmative. Alors là, c'est aristotélicien, c'est-à-dire que l'existence est au niveau de l'universel. Parce que tous existent et font quelque chose, alors quelques-uns existent et font quelque chose. Tandis que dans l'autre type de carré logique, tous font quelque chose, ça n'implique rien. C'est le fameux truc de Peirce, que tous fassent quelque chose ou qu'aucun ne fasse rien, c'est pareil. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et pourtant, on définit des fonctions. On sait très bien, je me suis trompé là.
Non, vous avez raison. Mais si vous voulez, quand vous dites tout corps lancé à une vitesse dans le vide continue à cette même vitesse, on définit très bien de quoi on parle, même si c'est impossible.
Oui, je sais bien, mais ça vous avez...
C'est très pratique.
Et donc... Bien sûr. Mais ce qui va m'énoncer, ça c'est le régime de scientifique, c'est-à-dire que vous avez une loi, et toute particulière affirmative concernant cette loi la vérifie. C'est pas pensable autrement. Malheureusement, dans les cas cliniques qu'on produit, c'est un peu pareil. Je le déplore. Mais c'est pour dire que c'est au niveau des particulières qu'il va se passer ce qui m'intéresse. Dans cet exposé-là, on ne peut pas parler de tout en même temps, je ne parlais que du niveau de l'universalité, au sens où il s'agit d'entendre cette fonction phallique. C'est-à-dire que c'est dans le pour tout x, phi de x, qu'elle prend sens, que le phi de x prend sens. Évidemment, il reste le même dans les quatre postes. Il s'écrit pareil et il a la même fonction, si je puis dire. Hein. Simplement, ce sont les quantificateurs qui changent et c'est eux qu'il faut surveiller de près. Je voulais simplement fixer un peu, peut-être, la signification de phi de x. Voilà. Parce que je savais que je l'avais laissé un peu de côté.
Oui.
Il y avait quand même une chose qui me... C'était ce que la dame dit qu'il
n'y avait pas
la
chose. Oui.
Ça fait de la folie aux éducateurs.
Ben oui.
Et ça me fait penser, moi, que ce qui appartient à quelqu'un lui appartient et aucun autre ne peut s'en charger à sa place. Ou sans sa place. C'est dans les animaux malades de la peste, le baudet est sans bas. Il est, alors qu'il ne devrait pas être dans la forêt, et en principe, il devrait avoir sans bas et être chargé, et il est sans bas, ou il est déchargé. Et les voilà qui trouvent à lui en mettre un. Eh bien, je crois que cette question qu'il montre, que M. Pétain aussi, elle appartient aux choses et pas sur le dos de personne. Elle appartient au travail à faire. Et donc, ça ne devrait pas mettre en folie que la difficulté personnelle que j'ai à réaliser toute chose, que je ne sais pas comment je vais faire, ça c'est normal.
Ah ben, je m'étais appuyé pour dire ça, je me suis quand même appuyé sur le travail de Rosine Lefort, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même du grand autre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Il y a pas de... C'est juste pour poser ce point-là, parce que je n'ai pas ces références-là et ces travaux-là du tout. C'est pour poser ce point-là au point de
exercer
réellement la fonction éducateur. Je pense que il y a une chose qu'on ne doit pas mettre sur son dos, ce qui appartient à l'autre, quel que soit l'état des choses.
Mais personne n'est tout seul. Et tout le monde n'a pas. Moi, je suis vraiment. Si je réponds à vous, je dirais. Moi, je pense exactement le contraire. Hein. Je pense qu'on passe notre temps à s'échanger des affaires des autres. Hein. Et que c'est bien ça qui fait qu'on parle et qu'on discute et qu'on s'aime et qu'on se déteste. En quelque manière. C'est parce qu'on se charge, toujours dans la parole qui circule entre plusieurs personnes, on se charge par définition de ce qui.
On peut se charger d'une fonction.
C'est la vie qui est comme ça, c'est pas moi qui le décide, quoi. Enfin, moi, je vois la vie comme ça, pour répondre à vous. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait un autre qui serait chargé de quelque chose et qu'on n'aurait qu'à le laisser...
Mais c'est pas ça que je dis. Ça appartient. Il y a un traitement, un travail entre le, qui se noue en jeu de deux fonctions, en somme, évidemment. Une fonction de demande et une fonction... prendre en charge, effectivement, comment faire. Et donc, ça appartient à la chose sur terre, sur un sol. Une problématique, elle n'est pas sur le dos de personne. Elle est elle-même. C'est une chose, comme cette fonction phallique existe en elle-même. C'est une question d'articulation, de compter. Mais c'est au monde, en somme, c'est, comment dire... Là, ça n'est pas
je peux comprendre, mais à condition, alors je vous dirai tout simplement, à condition que la chose, comme vous dites, qui est posée à côté, qu'on ne peut pas prendre sur son dos, etc., cette chose-là, elle commence à pouvoir être posée quand elle a un nom. Quand elle n'a pas de nom, quand elle n'a pas de mot, quand elle est envahissante en soi-même, parce qu'elle n'est justement pas repérée, ça produit des effets de sujet pour celui qui est en face.
Oui, je comprends bien cela. Mais c'est que la question posée, PAU, évidemment, est la difficulté. Et en effet, il faut décharger, c'est très long, c'est très difficile, il faut identifier, en effet, il faut démontrer. Il faut remettre la chose au monde, parfaitement. Alors ça veut dire se charger, ça veut dire engager la fonction. C'est ça que je veux dire. C'est pas prendre l'autre sur son dos parce que ça ne lui fera pas passer.
Ah bah ça, oui, oui, voilà. On entend ça, d'accord. C'est ça que vous voulez dire. Oui, évidemment, ça sert à rien de le prendre sur son dos. Voilà. Mais là, c'est, quand même, le transfert, c'est que c'est au moment où on le prend sur son dos qu'on arrive à le nommer. Tant qu'on l'a pas pris sur son dos, ça apparaît à l'extérieur, c'est un défaut, c'est son baveur, il est enrhumé. Alors, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout parce qu'ils sont enrhumés.
Alors, c'est des questions de pédagogie, évidemment.
C'est pas pédagogie, c'est des questions beaucoup plus violentes, quoi. C'est des questions de...
Parce qu'on doit être deux, quoi.
Ah bon, le grand transfert, même avec les éducateurs.
Mais ça peut bien du temps. C'est parce que ça voyage.
Ah ben d'accord.
Comme quand on joue au badminton, disons, ou au tennis.
Ça marche bien.
Je parle d'expérience.
On parlera, oui, je vois.
De seulement là, donc j'ai très mal les références pour mieux citer. Donc, en fait, c'est probablement une question de situation de comment on vit.
Qu'il y a d'autres interventions ? Bien, donc nous vous attendons demain à 10h15 pile. On vous attend plutôt 9h30, comme ça Isabelle Floch pourra se lancer à l'aise avec vous pour parler des Marguerite Duras et les thèmes de la jouissance. Donc, merci beaucoup à Jeanne Lafont et mille fois merci à Guy Legoffet de cette prestation, je ne sais pas comment, de nous faire part de ces travaux en cours, sont des travaux en cours, même si c'est à partir des cas très, très précis et très particuliers. Merci beaucoup, à demain.